VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Moragibour avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Dernier jour de campagne en Gambie en vue de la présidentielle samedi. Nord-est de la RDC en une semaine, plus de 100 morts en Ituri. Rencontre Blinken-Lavrov autour des tensions à la frontière ukrainienne. Beaucoup de craintes autour du variant Omicron qui se répand dans le monde. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Les Gambiens élisent samedi leur prochain président. Le sortant Adama Barrow et 5 autres candidats, tous des hommes, se disputent les voix d'un peu moins d'un million d'électeurs. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Pour le président sortant Adama Barrow, l'élection va donner la mesure de la confiance placée en lui pour redresser la barre et réconcilier les Gambiens. Sous sa présidence, les prisonniers politiques ont été libérés, le multipartisme instauré, la liberté d'expression restaurée. La Gambie a réintégré le Commonwealth et a renoncé à quitter la Cour pénale internationale. Mais M. Barrow est revenu sur sa promesse de ne rester que 3 ans, provoquant fin 2019 des manifestations et des dizaines d'arrestations. Son parti nouvellement créé a voulu nouer une alliance avec celui de l'ancien président Yahya Jammeh, mais ce dernier a apporté son soutien à un ancien lieutenant de son parti, Mama Kandé. Ousseinou Darboé, avocat et défenseur de nombreux opposants de Yahya Jammeh, est présenté comme le principal concurrent de M. Barrow, avec qui il a pris ses distances après avoir été son ministre et vice-président. La présidentielle se joue en un seul tour. Les résultats pourraient être connus dès le lendemain.
Au Sénégal, les transports sont toujours perturbés à Dakar et dans plusieurs villes au deuxième jour d'une grève dans ce secteur pour protester notamment contre les tracasseries policières. Annoncées ce matin, les négociations n'ont pas eu lieu faute d'entente entre les transporteurs et les autorités sur la manière de les mener. De nombreux travailleurs et élèves n'ont pas pu se rendre à leur lieu de travail et leurs écoles. Au Bénin, 2 militaires tués dans la nuit dans une attaque djihadiste à Porga, dans le nord du pays, proche de la frontière avec le Burkina Faso. Nous avons perdu 2 des nôtres dans une attaque aux premières heures à Porga, a déclaré une source militaire. Nous avons également des soldats blessés qui sont actuellement soignés. L'Union européenne a annoncé l'octroi au Mali d'une aide de 24 millions d'euros pour renforcer ses capacités militaires, mais elle pourra être suspendue si la junte ne respecte pas les conditions de l'utilisation des fonds. Ce soutien doit aider à renforcer les capacités des forces armées maliennes et à réduire la menace posée par les groupes terroristes, indique le Conseil de l'UE. En Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, de nombreuses localités ont été victimes d'attaques armées. Plus d'une centaine de personnes ont été tuées en une semaine. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Les milices Codeco, qui prétendent défendre les intérêts de la communauté Lendu, multiplient les attaques contre les membres de la communauté Emma dans plusieurs localités, comme Adrodro, Ivo, Kateza, Doya et Chabi. 3 des 5 territoires de la province de l'Ituri sont particulièrement touchés et la situation se dégrade jour après jour. Pas moins de 123 civils ont été tués en une semaine et des dizaines de milliers de déplacés, d'après Pierre Boisselet, coordinateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Nous avons connu 4 attaques sur des sites de déplacés. En plus des dizaines de morts, beaucoup ont été kidnappés, selon Joseph Inganji, chef de la coordination humanitaire des Nations Unies en RDC. Malgré une opération militaire lancée mardi depuis l'Ouganda, dans la province d'Ituri, contre les rebelles ADF, la situation s'aggrave. Malgré l'état de siège en Ituri et dans le Nord Kivu, plus de 1200 civils ont été massacrés depuis le mois de mai.
Toujours en RDC, des hommes armés ont attaqué hier soir sur une route du Sud Kivu, dans l'est du pays, un camion d'aide humanitaire dont ils ont tué les 4 occupants et volé une partie de la cargaison. Le véhicule appartenant à un particulier transportait surtout de la farine, a précisé le colonel David Epanga, commandant des FRDC en territoire de Fidji. L'Union européenne a renforcé la sécurité de son personnel encore sur place en Éthiopie après l'évacuation des collaborateurs expatriés non essentiels en raison du conflit opposant les forces gouvernementales aux rebelles.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le nouveau variant du coronavirus Omicron continue à se propager dans le monde, poussant les pays à imposer de nouvelles restrictions. Mohamedou Oumfa fait le point.
Aux États-Unis, où un premier cas du variant Omicron a été détecté, il sera exigé à partir du début de la semaine prochaine que tous les voyageurs étrangers entrant sur le territoire présente un test négatif réalisé dans la journée avant le départ, en plus d'être vacciné. L'Allemagne va imposer des restrictions drastiques aux non-vaccinés, leur imposant un quasi-confinement, alors que le variant Omicron risque de devenir majoritaire en Europe d'ici les prochains mois, selon l'Agence de l'Union européenne chargée des maladies. En Norvège, entre 50 et 60 convives, tous vaccinés, ont contracté le coronavirus après un repas dans un restaurant à Oslo le 26 novembre. En Afrique du Sud, où a été annoncée l'identification du variant Omicron, les autorités ont décrit devant le Parlement une propagation exponentielle du nouveau variant, manifestement très contagieux. Le président Cyril Ramaphosa poursuit sa tournée en Afrique pour dénoncer les restrictions de voyage imposées à son pays.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé ce jeudi à Abidjan toute forme d'apartheid sanitaire dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, en particulier son variant Omicron. À l'issue d'une rencontre avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, le président Ramaphosa a affirmé être, avec le président ivoirien, préoccupé que l'Afrique et le reste du monde en développement continue à se battre contre la pandémie en ayant un accès limité aux vaccins si nécessaire pour sauver des vies. L'organisme de surveillance sanitaire de l'Union africaine a estimé ce jeudi qu'il n'y a pas lieu de paniquer face au variant Omicron du Covid-19. Nous sommes très inquiets, mais nous ne craignons pas que la situation ne puisse être gérée, a précisé le directeur d'Africa CDC. Le variant Omicron a pour l'instant été signalé dans 4 pays africains, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Nigeria et le Botswana. Les professionnels du tourisme au Maroc s'alarment après l'annonce brutale de la fermeture des frontières en raison du variant Omicron. Le tourisme est un secteur vital pour l'économie du royaume et il a déjà été miné par une crise sans précédent depuis près de 2 ans. Les opérateurs du tourisme misaient sur les fêtes de fin d'année pour se redresser. Face à face aujourd'hui en Suède entre le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son homologue américain Anthony Blinken, Monsieur Lavrov a jugé impératif d'apporter des garanties sécuritaires sur le long terme concernant les frontières occidentales de la Russie, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Moscou redoute notamment que l'Ukraine intègre l'OTAN, une organisation que la Russie perçoit comme une menace à sa sécurité. Mercredi, le président Vladimir Poutine avait déjà exigé des garanties juridiques contre l'extension de l'OTAN à l'Est. M. Lavrov a appelé son homologue américain à ne pas entraîner l'Ukraine dans le jeu géopolitique des États-Unis, sinon Moscou serait contraint de prendre des mesures afin de rétablir l'équilibre militaro-stratégique, selon le communiqué du ministère russe. Anthony Blinken a énuméré les griefs à l'égard de Moscou sur le non-respect des accords de Minsk censés régler le conflit dans l'est de l'Ukraine entre les forces de Kiev et les séparatistes pro-russes. Si la Russie décide de continuer sur la voie de la confrontation, elle subira de graves conséquences, a-t-il prévenu, après avoir menacé mercredi de douloureuses sanctions économiques. La meilleure manière de prévenir une crise, c'est la diplomatie, a-t-il martelé. Le Kremlin a encore affirmé jeudi que la volonté affichée par les autorités ukrainiennes de récupérer la Crimée était une menace directe adressée à la Russie. La diplomatie russe a toutefois indiqué jeudi qu'elle espérait la tenue dans les prochains jours d'un contact entre M. Poutine et son homologue américain Joe Biden.
Par ailleurs, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et le Canada ont annoncé de nouvelles sanctions économiques contre le Bélarus, accusé de violations répétées des droits humains et d'organiser le passage de migrants vers l'UE. Les États-Unis ne sont pas très optimistes sur la volonté de l'Iran de revenir dans l'accord sur le nucléaire iranien, malgré la reprise des négociations à Vienne, selon le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, qui a toutefois ajouté qu'il n'est pas trop tard pour y parvenir. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Une ligne maritime reliant la ville libyenne de Misrata à celle d'Izmir sur la mer Égée en Turquie a été inaugurée mercredi. Il s'agit de la première ligne maritime pour passagers au départ de la Libye depuis l'interruption de ce moyen de transport pour les voyageurs il y a 25 ans. Nous avons des accords pour lancer de nouvelles liaisons, notamment avec l'Égypte et la Tunisie, a déclaré à l'AFP Taha Hadid, un responsable du port de Misrata. Le FMI a prévenu jeudi qu'un effondrement économique dans certains pays n'est pas exclu si le G20 n'agit pas de manière urgente. Au début de la pandémie, les pays riches du G20 avaient offert aux pays pauvres un moratoire sur le paiement du service de leurs dettes jusqu'à la fin de l'année avant de le prolonger jusqu'à la fin 2021. Ils avaient aussi créé en novembre 2020 un cadre commun destiné à restructurer, voire annuler la dette des pays qui en feraient la demande. Mais pour l'heure, les créanciers privés, en particulier chinois, freine sa mise en œuvre.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Basketball pour commencer. Gianni Antetokounmpo, le grec, et Luka Doncic, le slovène, ont encore fait des étincelles en NBA. Antetokounmpo a inscrit 40 points, raflé 12 rebonds et distillé 9 passes décisives pour permettre à Milwaukee de battre Charlotte 127-125. Il y a eu moins de suspense à la Nouvelle-Orléans où les Dallas Mavericks ont signé une large victoire 139-107. Leur joueur vedette Luka Doncic a inscrit 28 points et réussi 14 passes décisives. Dallas a connu un pourcentage de réussite exceptionnel, 68,7%, avec 57 tirs rentrés sur 83 tentatives, dont 18 à 3 points. Nouveau record de la Ligue qui efface le précédent 68,6% datant de 1983. À Miami, le Heat, toujours privé de deux de ses pièces maîtresses, Bam Adebayo et Jimmy Butler, a chuté devant les Cleveland Cavaliers 111-85. Football, les Lions de l'Atlas se sont imposés lors de leur premier match en Coupe arabe. Ils ont pulvérisé la Palestine 4-0 à Doha au Qatar. De son côté, l'Égypte a difficilement disposé du Liban 1-0. L'Algérie a écrasé le Soudan 4-0. Le meneur de jeu danois Christian Eriksen a repris l'entraînement d'après un responsable du club Otense. Officiellement sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en 2024, Eriksen, 29 ans, est actuellement à Odense où il a fait ses débuts le 12 juin à Copenhague. En effet, il s'était écroulé en plein match, victime d'un arrêt cardiaque. Lors du premier match de son pays à l'Euro, Eriksen est retourné en Italie en août, quelques semaines après s'être fait implanter un dispositif pour prévenir le risque de mort subite. Mais le revoir sur une pelouse de Serie A reste pour le moment improbable, dans la mesure où le port d'un tel dispositif en Italie est une contre-indication à la pratique du football professionnel. Le Corriere dello Sport évoque un éventuel retour à l'Ajax Amsterdam, où Eriksen a débuté en professionnel de 2010 à 2013. L'Ajax compte un joueur également porteur d'un appareil cardiaque, l'international néerlandais Daley Blind. Sydney accueillera 11 matchs du Mondial 2023 de football féminin, tandis que 9 auront lieu à Auckland, en Nouvelle-Zélande. L'annonce a été faite par les organisateurs alors que le nombre de villes hôtes a été réduit. La Coupe du Monde, co-organisée par la Nouvelle-Zélande et l'Australie, débutera le 20 juillet 2023 à l'Eden Park d'Auckland et la finale aura lieu le 20 août à Sydney au Stadium Australia. Les deux pays ont été choisis en juin 2020 pour accueillir le premier mondial féminin à 32 équipes au détriment de la Colombie.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Tchad, le président du Conseil militaire de la transition, Mahamat Idriss Déby, est devenu général d'armée. Il est apparu en public à l'occasion de la célébration de la fête de la liberté et de la démocratie, commémorée ce 1er décembre à N'Djamena. Une distinction qui a surpris plus d'un Tchadien. Réaction dans le reportage d'André Komadjingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena au Tchad.
À moins de 7 mois de sa prise du pouvoir suite à la mort tragique et brutale de son père, feu maréchal du Tchad, le chef de la junte militaire Mahamat Idriss Déby passe de grade du général du corps d'armée 4 étoiles à général d'armée 5 étoiles, le plus haut grade de l'armée tchadienne qui le rapproche de celui de son défunt père.
Déby, père de colonel qu'il était, lui-même il s'est nommé jusqu'à maréchal. Ça n'a obéi à aucune règle, ni de droit, ni des règles même militaires. Et donc finalement, on est dans le même système, avec les mêmes méthodes, les mêmes procédés et avec la même volonté et la même détermination, je pense.
Docteur Sitaki Yombatina Beni, juriste et enseignant chercheur à l'ENA du Tchad, pour lui, ce n'est pas ce que les Tchadiens attendent des autorités de transition.
On nous a dit qu'on était venu pour nous aider à aller à un dialogue, pour pouvoir régler nos problèmes. Or, les gens commencent par régler leurs problèmes à eux, personnels. Déjà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait déjà pour avoir une étoile de plus. On pourrait dire, mais alors, donc tout ça pour ça, quoi. Et donc, la prochaine étoile serait pour amener tout le monde au palais, pour venir se coucher, n'est-ce pas, à ses pieds, comme son père l'a fait. Sauf que ces choses-là arrivent souvent vers la fin et précipitent, n'est-ce pas, la mort des gens. Lui, il vient de commencer. J'ai comme l'impression que il confond vitesse et précipitation.
Pour Abdraman Diasnabaï, ambassadeur de la paix auprès de la francophonie, c'est un grade mérité et donc il ne faut pas faire de la spéculation.
C'est le conseil militaire de transition qui a décidé qu'il soit le plus gradé d'entre eux. Quoi que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre. De toute façon, il est président de la République, il est chef de l'État. C'est ça qui est important. Donc, c'est lui qui a aujourd'hui la destinée du Tchad entre ses mains. Donc qu'il y ait un grade de plus ou pas, ça ne gêne pas. Son père a mis comme il est temps pour être maréchal. Alors le moment venu, si ces choses-là c'est précises, on verra. Mais pour l'instant, c'est de la spéculation. Ça. Moi, je cherche à réconcilier les Tchadiens. Ça, là, c'est reconnu par la charte de transition et même peut-être dans la future constitution, c'est ça qui va être retenu. Donc le CMT lui donne un grade de plus ou pas. Bon, pour ça ne change rien à sa situation actuelle.
La question de l'armée sera débattue pendant le dialogue en cours et donc s'arroger de telles prérogatives, même si cela relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, est une ruse qui pose un problème très sérieux, estime le constitutionnaliste indépendant Ahmad Mahamat Hassan.
Avant la transition, le président du conseil militaire se nomme général d'armée en copiant le conseil de son père. Ce n'est pas de bon aloi. Et il est très conscient que si le dialogue est vraiment ouvert et sincère, la question de l'armée va se poser compte tenu de son enjeu pour la recherche et la conservation du pouvoir. Et après, les mécanismes de nomination des officiers généraux ne se feront pas unilatéralement, mais ce sera sûrement par des mécanismes de collégialité. C'est des postes budgétaires importants qu'on ne pourrait pas donner à un seul individu, quel que soit son rang, président de la République ou chef du gouvernement ou président du Parlement, on pourrait s'autoproclamer le général tout court avant les différents échelons de grade.
Né le 1er janvier 1984, Mahamat Idriss Déby, officier de l'armée tchadienne, est élevé au grade de général d'armée en 2018 par son feu père Idriss Déby Itno. Il est devenu général d'armée à 37 ans. André Koduma Dingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique à N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le Cameroun a lancé le 17 novembre dernier une campagne de vaccination de 5 jours contre le Covid-19. C'était la troisième du genre depuis le 12 avril dernier, date de la toute première. Selon les récentes statistiques du ministère de la Santé publique, 4,1% de la cible est complètement vaccinée. Des chiffres très en deçà des attentes du gouvernement qui multiplie des stratégies pour attirer plus de personnes à la vaccination. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Tap.
À la date du 25 novembre dernier, le Cameroun a acquis 2 191 850 doses de vaccins Sinopharm, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Le ministre de la Santé publique a annoncé la semaine dernière que la livraison du vaccin Pfizer est imminente. Malgré cette disponibilité suffisante des vaccins, les populations boudent les campagnes de vaccination.
Ça, apparemment, je vois quand quelqu'un prend ça, c'est ça qui précipite même sa mort. Moi, je ne suis pas prête à prendre ça.
La femme de mon frère, papa, est morte après avoir reçu même le vaccin du Covid. Là, je ne peux pas.
Quand on ne sait pas,
poliomyélite, on disait peut-être choléra, on disait je ne sais pas quoi, typhoïde. On avait le même vaccin. Mais aujourd'hui, pourquoi ils ont créé plusieurs types de vaccins? C'est une guerre économique dont tu crées ton vaccin pour t'enrichir.
Depuis l'introduction de la vaccination contre le Covid-19, le 12 avril dernier, seules 930 476 doses ont été administrées à la date du 25 novembre. Même la proportion du personnel de santé complètement vacciné est faible. Elle se situe à 18,4% selon le programme élargi de vaccination. De nombreux Camerounais sont influencés par les campagnes anti-vaccins dans les réseaux sociaux.
On lit dans les réseaux sociaux, tu vois peut-être tel médecin ou bien tel professeur qui dit que non, le vaccin contre le Covid n'a pas été bien étudié et ça ne vaut même pas la peine puisque aujourd'hui on va te dire il y a telle variante, il faut se vacciner. Tu vois des gens, moi j'ai vu un Américain, je crois c'est un basketteur, qui a pris le vaccin de Covid deux fois et il a encore le Covid pour une troisième fois. À quoi sert donc ce vaccin?
Dans les réseaux sociaux, à la télévision, il y a plusieurs gens qui disent qu'il y a des inconvénients par rapport à ça.
Et pourtant, les responsables du programme élargi de vaccination affirment que les effets secondaires de la vaccination contre le Covid-19 au Cameroun sont jusqu'ici mineurs. Pour chaque tour de campagne de vaccination, les autorités sanitaires adoptent désormais de nouvelles stratégies pour atteindre de plus de cibles. Docteur Georges-Marie Otou, chef de district de santé de l'hôpital de Fulane, dans le 3e arrondissement.
Nous avons deux principales stratégies. Nous avons une stratégie fixe pour des équipes qui sont fixes dans les trois principales structures qui ont été retenues, qui sont l'hôpital militaire de Yaoundé, qui sont l'hôpital du district de Fulane, et puis le centre médical d'arrondissement d'Arala. Hormis ces trois postes fixes, des équipes mobiles sont déployées dans toute la zone, notamment au niveau des marchés, notamment au niveau des chefferies et notamment au niveau des églises, des lieux de rassemblement.
Le ministère de la Santé publique vient d'élaborer un plan stratégique de communication numérique et un guide d'élaboration des messages pour réduire l'impact des fausses informations à l'origine de la réticence des populations au vaccin anti-Covid. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Kenya, les militants écologistes accueillent favorablement le soutien des États-Unis à un accord mondial pour lutter contre la pollution plastique dans les océans. Sans attendre la mise en œuvre de mesures concrètes au plan national et international, une initiative communautaire agit en ce sens en collectant et recyclant le plastique échoué sur les plages du Kenya, où la plupart des habitants dépendent du tourisme pour gagner leur vie. Un reportage de Juma Majanga à Watamu, relaté par Nathalie Barge.
Il y a des monticules de déchets plastiques sur les plages du Kenya à Watamu. Ainsi, deux fois par semaine, la coordonnatrice de l'association maritime de Watamu, Julie Mira, dirige des équipes qui ramassent les objets échoués sur la plage. L'association collecte 5 tonnes de déchets par semaine.
C'est trié pour identifier les éléments qui peuvent être recyclés comme le plastique, le verre et les métaux. Nous vendons les métaux offerts ailleurs et on broie le plastique. Nous déchiquetons et vendons le plastique dur et les bouteilles d'eau en plastique. Nous réinjectons l'argent de ces ventes dans le projet pour nous financer et faire plus de nettoyage de plage.
La pollution plastique affecte le milieu marin. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement, 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans chaque année, dont 80% proviennent de déchets terrestres non collectés. L'impact de cette pollution à Watamu est critique, car la région dépend essentiellement du tourisme, explique Julie Mira.
Si les touristes ne veulent pas visiter une plage sale, cela signifie que les moyens de subsistance des membres de la communauté locale sont menacés, ainsi que l'industrie du tourisme.
En visite à Nairobi récemment, avant la 5e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé le soutien des États-Unis à un nouvel accord mondial pour lutter contre la pollution plastique des océans.
Notre objectif est de créer un outil que nous pouvons utiliser pour protéger nos océans et toute la vie qu'ils contiennent contre les méfaits croissants de la pollution plastique. Il est crucial que l'accord appelle les pays à élaborer et appliquer des plans d'action nationaux consistants pour s'attaquer à ce problème à sa source.
Les écologistes ont salué le soutien américain et ont exhorté d'autres grands producteurs de plastique comme la Chine à se joindre aux négociations. En attendant des mesures concrètes et durables, l'association maritime de Watamu au Kenya, comme de nombreux autres défenseurs de l'environnement, continue de ramasser les ordures sur les plages pour les garder propres autant que possible.
Les manifestations hier à Washington reflètent combien le débat sur l'avortement divise les États-Unis depuis plusieurs décennies. La Cour suprême a commencé hier à entendre des arguments sur une loi de l'État du Missouri qui restreint l'interruption volontaire de grossesse. Un reportage de Caroline Pressouti de la VOA, le récit est de Lionel Gaïma.
Un défi au droit à l'avortement en Amérique, avec de fortes protestations en plein air qui pourraient être entendues à l'intérieur du tribunal. La Cour suprême a commencé mercredi l'examen d'une loi de l'État du Mississippi qui interdit la plupart des avortements après 15 semaines de grossesse. La question brûlante maintenant, est-ce que les juges vont annuler ou maintenir la décision historique Roe v. Wade de 1973 qui a établi un droit à l'avortement? Cathy Reyna était à la manif.
C'est le plus grand défi pour Roe contre Wade depuis des décennies.
La loi du Mississippi réduit le délai pendant lequel les femmes peuvent choisir d'avorter. Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies montrent que 92% des avortements ont lieu au cours de 13 premières semaines de grossesse. C'était avant l'interdiction du Mississippi. Une manifestante, Krista Corbello, est contre l'avortement.
Je pense que l'avortement, c'est un peu barbare. C'est une vieille pratique. L'avortement est un échec pour les femmes et les familles depuis plus de 50 ans.
Pareil pour Savannah Ackerman, qui milite contre l'interruption volontaire de grossesse.
Toute vie sauvée est monumentale, je pense. De plus, ce que nous examinons ici est de mettre l'interdiction là où tous les autres pays du monde le font.
Le sénateur républicain Steve Daines partage cet avis.
Nous avons la possibilité de mettre fin à une pratique extrême sur l'avortement imposée par la justice et alignée sur des pays comme la Chine et la Corée du Nord. Les États-Unis sont l'un des 7 pays qui autorisent les avortements tardifs.
Une question qui divise profondément ce pays depuis plus d'un demi-siècle, la représentante démocrate Lois Frankel.
Les choix anti-avortement concernent des politiciens qui veulent contrôler le corps des femmes. Il s'agit des politiciens qui retirent aux gens la décision personnelle d'accéder aux soins de santé dont ils ont besoin.
Une autre manifestante, Alison Turcos, est du même avis.
Je n'ai jamais subi d'avortement moi-même, mais il y a une chance que j'en ai besoin un jour. Et il ne s'agit que de justice et de légaliser l'avortement.
Le président Joe Biden soutient la loi actuelle.
Je soutiens Roe v. Wade et je pense que c'est une position rationnelle à adopter.
Les opposants à l'avortement comptent sur la majorité conservatrice de 6 juges sur 9 à la Cour suprême pour leur offrir une victoire. Au cours des plaidoiries, la juge Sonia Sotomayor a mis en garde contre les dommages causés au tribunal s'il est perçu comme se pliant à la pression politique.
Si les gens croient réellement que tout est politique, comment allons-nous survivre?
Garder la loi du Mississippi pourrait ouvrir la porte à d'autres États qui pourraient adopter des lois tout aussi restrictives. John Roberts, juge en chef de la Cour suprême.
Il me semble que la viabilité d'un fœtus n'a rien à voir avec le choix de l'avortement. Mais s'il s'agit vraiment d'une question de choix, pourquoi 15 semaines ne suffisent-elles pas aux femmes pour décider?
La Cour suprême doit rendre sa décision l'année prochaine, qui est aussi l'année des élections des mi-mandats aux États-Unis.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Moragibour. Merci. Va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.